Bonjour à tous et bienvenue sur Positron, l'émission qui vous fait un zapping de bons plans tellement excellent que vous n'aurez plus jamais le temps de vous ennuyer. Bonjour à tous et bienvenue sur, j'allais dire le rendez-vous tech, mais c'est pas le rendez-vous tech, c'est Positron, Positron avec les deux camarades de podcast science, Alan et Nico, qui sont de retour pour ce deuxième épisode de cette session de quatre épisodes et qui me rejoignent, moi, Patrick Béja. Comment allez-vous, messieurs ?
Ça va bien,
ça va très bien.
Ouais, peut-être qu'il faudrait qu'on se donne un ordre de parole, parce qu'à chaque fois que vous attendez que l'autre parle, vous êtes trop polis, les gars.
C'est ça.
Vaut mieux parler en même temps, en fait. Bon, ça va bien depuis 15 jours, vous vous êtes reposé, vous avez eu le temps de recharger les batteries, de trouver d'autres trucs cool à recommander.
Ouais.
C'est passé
une
vite,
très bonne
hein,
blague. J'ai voilà, merci, il faut rentrer dans le truc. C'est la bonne blague qu'on fait à chaque fois, puisqu'évidemment, maintenant, ça, c'est plus un secret, on enregistre les épisodes à la suite. Donc, en fait, on vient de finir l'épisode précédent, mais oh, ça fait 15 jours, c'est très drôle. On a de l'humour. Bon, donc, puisque vous êtes en forme, je vous propose qu'on se lance immédiatement dans nos positronnages. Oui ? Non ?
C'est parti.
Allons-y, on t'écoute.
Oui, mais vous êtes trop timides, les gars. Faut y aller, oui, vous êtes sages. Je ne sais pas comment ça se passe sur Podcast Science, mais ici, il faut...
Soyons sages. À chaque
voilà.
fois que je positron, en fait, moi, j'ai une image qui vient en tête, c'est celle de l'anti-électron. Du coup... du coup, je voulais te demander, pourquoi positron ?
Mais parce que positron, en fait, quand je cherchais le nom de l'émission, j'avais l'idée de l'émission, mais quand je pensais au nom de l'émission, je me disais que c'était une émission qui est prévue pour donner du plaisir aux gens qui s'emmerdent un peu. Si on s'ennuie et qu'on n'a pas quelque chose à faire, eh ben on écoute un positron. Non seulement on se sent bien parce que c'est marrant et c'est rigolo, mais en plus, ça nous donne une activité et donc on retrouve le sourire. Et donc, c'est positif. Et comme j'aime pas tellement appeler mes émissions genre... podcast truc ou machin cast ou pod bidule, je sais que ça se fait beaucoup, mais moi c'est un petit tic que j'aime pas trop. Je me suis dit, détournons un truc qui existe déjà. Et peut-être que inconsciemment, c'était parce que à ce moment j'étais en train d'écouter Podcast Science et je me disais, il faut un truc un peu scientifique. Et peut-être qu'un jour, les gars de Podcast Science je serai digne de les recevoir dans mon émission avec des atours un peu scientifiques.
Je vois, ouais. Et puis, nous, on est forcément sensibles. Dès que tu nous parles de fermions, de leptons, surtout à la durée de vie instable, ça nous intéresse beaucoup. Donc, nous voici.
Très bien. Bon, écoutez, puisque vous êtes là, on va se lancer dans une émission qui va... J'espère donner le sourire, mais du coup, je commence avec un truc qui n'est pas forcément hyper joyeux. Je commence avec un album que j'aime beaucoup, mais qui, on va dire, qui va laisser les gens plus pensifs que heureux. C'est un album qui s'appelle « If You Wait »,« Si tu attends », comme on dit en bon français, que j'ai découvert en fait suite à un commentaire dans un positron. C'est, je crois que c'était Pascal Mabille, quand il avait fait son positron, j'avais parlé de The XX, qui est un autre groupe que j'aime beaucoup, et il avait évoqué très rapidement le groupe London Grammar, la grammaire londonienne, et je connaissais pas très très bien le groupe, et du coup je m'y suis intéressé un petit peu plus parce qu'il avait dit que la chanteuse avait une voix incroyable malgré son très jeune âge, et on voit effectivement que le groupe, je sais pas, il doit avoir 20 ans max, et je vais vous faire écouter un petit peu de leur composition dans cet album If You Wait, et vous allez voir que on sent pas du tout leur jeunesse dans leur musique. Let us burning by my bed for you.
here now. I can feel my instincts here for you.
Donc vous entendez bien que sa voix est assez incroyable pour la jeune fille qu'elle est. Et c'est pas qu'elle a une voix genre de personne plus âgée, mais c'est juste qu'elle a une voix profonde et étrange. Donc voilà pour le premier morceau. Je vais peut-être en jouer un autre. Comme toujours, les morceaux que j'aime, c'est un petit peu envoûtant, un petit peu... Je vais avancer un petit peu. Là, ça bouge un petit peu plus. Allez, encore un dernier juste pour le plaisir. On n'a même pas besoin de décrire, on écoute simplement et ça facilite mon boulot en fait. C'est décrit comme un groupe d'électronique trip-hop un petit peu. Moi je dirais que c'est un petit peu... Bon, c'est vrai qu'il y a un peu d'électronique quand même. Mais je dirais que c'est plus proche de la pop et l'attrait... De la musique et très certainement la voix de la chanteuse Hannah Reid. And so you build a life on trust, though it starts with love and lust, and when your house begins to rust. It's just metal and dust. We argue, we don't fight. Donc là, on a les petits côtés un petit peu électro, effectivement. We argue, we don't fight. Limite trip-hop. Bon voilà, je pourrais en parler pendant des heures et des heures, mais je pense qu'on va s'arrêter là. Ça s'appelle donc London Grammar, la grammaire londonienne, et c'est un groupe tout à fait admirable, d'autant plus que, comme je le disais, il y a une... ils sont d'une... J'arrive pas à trouver leur âge, en fait, malheureusement, mais ils sont très très jeunes, quoi. Donc voilà, ça s'appelle, comme je disais, If You Wait, c'est le nom de l'album. Et je crois que c'est le seul album qu'ils aient sorti. Il est sorti en 2013. Donc voilà, If You Wait, London Grammar. Ça vous a parlé, vous connaissiez?
Je connaissais déjà, mais j'ai apprécié de le réécouter là, en regardant au loin. C'était au Danemark, il y a un petit côté froid aussi qui me...
Ouais, effectivement. Ouais, et non, toi tu connaissais pas
Je connaissais pas du tout, non, mais je vais les suivre, ça m'intéresse. Bon, pour moi, le son déraillait un petit peu sur Skype.
D'accord, donc t'as pas pu apprécier toute la qualité de...
Ouais, j'imagine que ça doit être plus classe quand ça déraille pas.
C'est mais ce qu'on appelle l'électro, Alan.
Ah, c'est ça.
Très bien. Bon, j'arrive pas... Non, je suis très curieux du coup, et j'arrive pas à trouver son âge. Alors, how old is Hannah Reid? Elle a 24 ans. C'est assez incroyable.
Si c'est l'Internet mondial qui le dit.
Mais oui, voilà.
ça a été un vote, la majorité a dit elle a 24 ans.
C'est ça. Bon, visiblement, elle aurait 24 ans, ce qui veut dire que son album est sorti quand elle en avait 22. J'imagine qu'elle l'a enregistré à peu près quand elle en avait peut-être 21. Vous imaginez cette voix à 21 ans? C'est assez... Bon, moi, je fantasme parfois que je pourrais chanter un petit peu comme elle, et je chante sur ses morceaux, comme les auditeurs le savent désormais. À chaque fois, je dis que ça me donne envie de chanter quand je passe des morceaux dans Positron. Et là, c'était pas une exception. Je me dis, je fantasme d'avoir la voix d'Anna Reid parfois. Bon, bah écoutez, c'est tout pour mon positron. Maintenant, on va revenir à des choses un petit peu plus sérieuses avec Nico. Pas sûr.
Non, pas sûr, parce que il se trouve que la première fois que j'ai entendu positron, j'ai pas pensé à un livre de science, mais j'ai pensé au bouquin dont je vais vous parler là, qui s'appelle Novecento Pianiste, parce qu'en fait, cette nouvelle, c'est le parfait tu l'ennuies. Vous l'achetez, c'est un tout petit livre de 87 pages, vous le mettez dans votre sac, et à un moment où vous vous embêtez, vous commencez à le lire, et là, 2 heures passeront comme si c'était écoulé 5 minutes. Bon, par contre, ça marche qu'une fois, hein, si vous pouvez le relire plusieurs fois, mais vous découvrirez moins de choses. Alors... À ce stade, je vous ai déjà conseillé de l'acheter. J'imagine qu'il y en a qui vont se demander de quoi il parle, à quoi ça ressemble, si ça va leur plaire. On peut pas leur en vouloir. J'ai un petit problème là-dessus, c'est que sa meilleure description, c'est que c'est un livre d'Alessandro Baricco. Je peux vous dire aussi que c'est mon préféré à ce jour, et c'est extrêmement dur de décrire ce type de livre. Du coup, je suis parti pour préparer cette émission, je suis parti à la rescousse d'aide extérieure pour m'inspirer. J'ai été voir sur un site de lecture qui s'appelle Goodreads. Et je suis tombé sur la critique d'un certain Alan Van Lanten, véridique, ce n'était pas prévu, il n'est même pas au courant que j'allais en parler, qui, alors qu'il a l'usage sur ce site de mettre des critiques de plusieurs lignes, là, il se contente d'agrémenter ses 5 étoiles du commentaire, un vrai petit bijou de storytelling. On est plongé dans un univers complètement improbable en quelques secondes, on a envie d'y rester, à mettre entre toutes les mains. C'est assez clair, tout est dit. Et en fait, il y a tous les éléments là. C'est-à-dire que Baricco, c'est d'abord un incroyable raconteur d'histoire et... À chaque fois que vous lisez des lignes, vous lisez ces pages, vous avez juste envie de continuer, quoi. C'est-à-dire que, par exemple, là, je suis en train de lire son dernier bouquin, du coup, parce que j'ai vu qu'il avait sorti un nouveau bouquin en préparant l'émission, qui s'appelle 3 fois des lobes. Et ça commence, donc c'est vraiment les premières lignes. Ces pages racontent une histoire vraisemblable qui, toutefois, ne pourrait jamais se produire dans la réalité. Comment on peut ne pas continuer quand on a des débuts comme ça? On a aussi un autre exemple, parce que c'est un Italien, donc c'est un roi des digressions. Il a écrit un bouquin qui s'appelle Les Barbares, qui est un essai sur l'entrepreneuriat, que je vous invite aussi à lire, surtout venant d'un auteur comme lui, qui n'est pas spécialement baigné dans le monde de l'entrepreneuriat. Et au début de son livre, il donne des citations, je ne sais plus comment ça s'appelle, je crois que c'est épigraphe, quelque chose comme ça, enfin des citations de début de bouquin, et il se voit dans l'obligation de les introduire. Entre autres, la deuxième citation, il fait une introduction d'une dizaine de pages, donc c'est quand même conséquent sur l'auteur, le contexte, l'univers, la personnalité, pour vous faire comprendre pourquoi 2 mots qui paraissent ridicules sont ici merveilleusement choisis. La citation en question, c'est Mickey Mouse. Oui, c'est tout, juste Mickey Mouse, mais ça devient génial avec les 10 pages d'avant. Donc, c'est là où c'est très dur à décrire, parce que c'est tout un univers, il faut se plonger. Et donc, la plupart du temps, particulièrement dans Novecento, on a vraiment un univers. Donc, sur ce bouquin-là, c'est un monologue, donc ça se lit un peu, c'est comme si quelqu'un nous parlait, parce que ça a vraiment été fait pour être lu. Lu par quelqu'un, ça narre l'histoire d'un musicien de génie qui est né sur un bateau, mais c'est extrêmement réducteur de dire ça, c'est-à-dire on ne suit pas le musicien de génie né sur un bateau, on plonge dans l'univers, on rit souvent, on est parfois ému, la fin est un peu triste, on aimerait y rester, et surtout une fois que le livre est refermé, on garde la sensation en fait qu'on a eue en le lisant, presque comme une sorte de vrai souvenir du bouquin, donc vraiment 2 heures de vrai plaisir à lire, quoi.
D'accord, mais dis-moi, c'est difficile de ne pas avoir envie, hein, ou de moins de ne pas être intrigué.
Voilà, ça, surtout que c'est court, donc vous pouvez dessus. J'avais même un petit extrait, je ne sais pas si ça vaut le coup de le lire ou pas, mais ça peut vous donner une idée.
Oh, mais vas-y. Parce que pour le coup, c'est même pas qu'on a une référence à laquelle on peut se référer, justement, pour savoir de quoi il s'agit. Donc là, ça peut aider, vas-y.
Donc je vais essayer de ne pas le trahir, hein, parce que je n'ai pas répété pendant des heures pour ça.
D'accord.
Donc, vous allez voir le côté digression, c'est un moment où il se passe quelque chose de très qui va se passer quelque chose de très nouveau, et c'est un peu pour introduire la chose. Donc il dit, c'est là, à ce moment-là, que le tableau se décrocha. Moi, cette histoire de tableau, ça m'a toujours fait une drôle d'impression. Il reste accroché pendant des années, et tout à coup, sans rien que ce soit passé, j'ai bien dit rien, vlam, il tombe. Ils sont là, accrochés à leurs clous, personne ne fait rien, et eux, à un moment donné, vlam, ils tombent, comme des pierres. Et dans le silence le plus total, sans rien que ne bouge autour, pas une mouche qui vole, et eux, vlam, sans la moindre raison. Pourquoi ce moment-là et pas un autre? On ne sait pas. Vlam. Qu'est-ce qui est arrivé à ce clou pour que tout à coup, il décide qu'il n'en peut plus? Aurait-il donc une âme, lui aussi, le pauvre malheureux? Peut-il décider quelque chose? Ça faisait longtemps qu'ils en parlaient, le tableau et lui. Ils hésitaient encore un peu, ils en discutaient tous les soirs depuis des années, et puis finalement, ils se sont décidés pour une date, une heure, une minute, une seconde, maintenant, flamme. Oui, alors, ils le savent depuis le début, ou alors ils le savent depuis le début, tous les deux. Ils avaient tout combiné entre eux. Bon, t'oublie pas, hein, dans 7 ans, je lâche tout. T'inquiète pas, pour moi, c'est bon. Alors, d'accord pour le 13 mai, d'accord? Vers 6h. Ah, j'aimerais mieux 6h moins le quart, d'accord. Allez, bonne nuit, bonne nuit. 7 ans plus tard, le 13 mai, 6h moins le quart, vlam. Incompréhensible. C'est une de ces choses, il faut pas trop y penser, sinon tu sors de là, t'es fou. Quand le tableau se décroche, quand tu te réveilles un matin à côté d'elle et que tu ne l'aimes plus, quand tu ouvres le journal et que tu lis que la guerre a éclaté, quand tu vois un train et que tu te dis « je me tire », quand tu regardes dans la glace et que tu comprends que tu es vieux. Voilà, c'était juste pour introduire qu'il allait se passer quelque chose de nouveau.
Oh là là, c'est vrai que c'est assez captivant comme écriture. Et quand tu te dis « je vais écrire un paragraphe sur... un tableau qui se décroche, a priori c'est pas facile, et visiblement il réussit, donc très bien. Bah écoute, on rappelle le titre, c'est Novecento
Pianiste. Bien sûr, ça a été écrit à l'origine en italien, c'est traduit en français, je pense que c'est traduit dans pas mal de langues, donc si vous avez une langue qui est pas le français, qui est à votre préférence, n'hésitez pas. J'imagine que ça doit être génial à lire en italien, mais je ne parle pas italien,
malheureusement. Oui, c'est vrai que moi généralement je préfère les lectures en version originale, enfin tout en version originale d'habitude. D'ailleurs, oula, il y a quelque chose qui s'est cassé la gueule dans la cuisine, je ne sais pas si ça s'est entendu dans le micro, j'espère que ça va aller. Donc, je préfère lire les choses en version originale. Il y a des trucs qui font du bruit dans la cuisine. J'espère vraiment que tout va bien. Je crois que ma machine qui fait le séchage
est en train de tout casser.
Est en train de tout casser, oui. Vous savez quoi ? Je vais revenir tout de suite. J'arrive. Alan, vas-y, lance ton positron en attendant.
Mon anti-électron, tu veux dire. Alors moi, je vais vous parler d'un petit bijou de film qui n'est pas assez connu à mon goût, qui s'appelle « The Man from Earth ». L'homme qui venait de la Terre. Un ami m'en avait parlé, et c'est comme ça que je l'ai découvert. C'est un de ces films auxquels on continue de repenser longtemps après l'avoir vu. Un petit peu comme Novecento Pianiste, hein, une fois qu'on l'a refermé, on continue de penser à cet univers-là. Le film, c'est un film de science-fiction, sauf qu'il n'y a pas le moindre effet spécial. Pas le moindre alien, il n'y a rien de futuriste. Ça se passe à huis clos, dans le séjour du personnage principal, John Oldman.
Ça pourrait presque être une pièce de théâtre, quoi.
Ouais, ça aurait pu, ouais. Ses collègues de l'université sont venus lui faire une petite surprise à la veille de son départ. Et une fois que l'alcool commence à couler, les langues se délient et ses amis insistent pour savoir pourquoi il part. Alors d'abord, il ne veut pas en dire trop. Et puis, petit à petit, il commence à livrer son histoire. Et en fait, le mec est un Cro-Magnon. Pas un descendant de Cro-Magnon comme vous et moi, carrément un Cro-Magnon né 14 000 ans plus tôt, atteint d'une mutation génétique qui fait qu'il ne vieillit pas. Il a échappé à la mort de justesse à plusieurs reprises, s'en est chaque fois sorti un peu par miracle, et toutes les générations environ, il s'en va, il démarre une nouvelle vie sous une nouvelle identité pour ne pas attirer les soupçons. Enfin, ne pas attirer l'attention. Et alors c'est super intéressant parce que toute l'attention du film naît du fait qu'on a envie de le croire, il a l'air sincère, mais qu'on pense que son histoire est impossible. Idem pour ses amis évidemment, qui sont tous des académiques, comme disent les anglophones, assez calés dans leur domaine pour ne pas avaler n'importe quoi. Il y a un biologiste, un anthropologue, une historienne, un psychiatre, un archéologue, ils le criblent tous de questions et à chaque réponse, en général plutôt inattendue et plutôt plausible, ils sont un peu plus emmerdés pour déterminer si c'est vrai ou pas. Et le clou, c'est évidemment quand il parle de religion. Il parle du Bouddha et de ses idées complètement révolutionnaires à l'époque. Donc, il l'a connu, il était là. Et de son message de paix. Et puis, comment, quelques centaines d'années plus tard, il a tenté de raviver ses idées en Palestine. Du coup, on apprend qu'en fait, Jésus, c'est lui. Et puis, il ne s'attendait pas du tout à ce que l'histoire dérape à ce point-là, que son message soit si mal compris et puis qu'on finisse par se taper dessus au nom de ses idées et qu'on en fasse des religions violentes. Alors, une des profs dans l'assemblée est une fervente pratiquante. Alors, forcément, elle est complètement choquée quand elle entend ça. C'est le moment du film où tout le monde s'emporte, s'énerve, s'engueule. Ils sont à deux doigts de se tirer dessus. John finit par dire qu'il a tout inventé. histoire que les gens arrêtent de se taper dessus. Mais jusqu'à la fin, on ne sait pas vraiment si c'est du lard ou du cochon. Il y a un indice à la toute fin du film.
Mais raconte pas tout. Raconte pas tout, malheureux.
À la fin du film, on saura si c'est vrai ou pas, mais je ne vais pas vous le spoiler. Je vous invite plutôt à regarder le film.
Ok. Ouais, ça a l'air tout à fait captivant, mais c'est un film qui est sorti au cinéma, ça ?
Oui, il est sorti au cinéma en 2007 aux États-Unis. Il a fallu attendre 2011 avant qu'il soit disponible en France. Il a gagné plein de prix. Ouais, j'en ai quelques-uns sous les yeux là, mais je les connais pas trop. Enfin, c'est des festivals spécialisés.
D'accord.
Il est basé sur un scénario de Jérôme Bixby. Qui était un auteur de science-fiction, c'était l'œuvre de sa vie en fait. Il a commencé l'écriture de ce truc-là dans les années 60 et il l'a terminé qu'à la fin des années 90 sur son lit de mort. Il n'aura jamais vu le film d'ailleurs qui a été réalisé en 2007.
D'accord. Bon, bah écoute, ça a l'air tout à fait intéressant et je pense que je vais essayer de le trouver. Ça a l'air pas mal, effectivement.
Ah ouais, ça a l'air incroyable, ouais.
Le titre en français, c'est The Man From Earth ou...
Oui, c'est The Man From Earth en français aussi. Je ne l'ai pas trouvé sur Netflix, mais il est disponible en DVD sur Amazon pour 22€.
Très bien. Super. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Alan. Et merci à vous deux d'avoir animé cette émission et pris le relais pendant que j'étais allé regarder ce qui se passait dans ma cuisine. Je vous confirme, il y a une assiette qui s'est cassée. Hein. C'est le truc con, tu sais, tu mets la planche à couper en équilibre sur le mur, mais la machine commence à faire l'essorage, donc tout vibre. La planche à couper glisse. Fait tomber la tasse qui était posée à côté de l'évier. La tasse tombe sur l'assiette qui était dans l'évier et l'assiette est cassée en deux. Donc voilà.
C'est t'aurais eu de la peine.
Oui, exactement. Bon, en tout cas, on vous rappelle ce dont on vous a parlé aujourd'hui. Il y a If You Wait, un album qui est recommandé à tout le monde. Novecento Pianiste, un livre également recommandé à tout le monde. Et The Man From Earth, un film qui est lui encore recommandé à tout le monde. Messieurs, où peut-on vous retrouver sur Internet si on en veut encore plus ?
Alors, on peut nous retrouver sur podcastscience.fm. En ce qui me concerne, on pourra bientôt me retrouver aussi sur bigbangscience.fr ou bigbangscience.ch. C'est mon projet du moment. Je suis en train de monter une agence de communication dédiée aux organisations scientifiques.
Magnifique.
Donc, ouais, je pense que c'est le bon moment. En fait, elles ont besoin d'un coup de main pour raconter leur histoire. Elles ne savent pas toujours le faire. Elles sont de plus en plus poussées à rendre des comptes à leurs financiers, au grand public, enfin à tout le monde. Quoi. Elles ont une histoire formidable à raconter, ces institutions. Donc voilà, je me lance avec un associé, membre du Café des Sciences, dont je parlerai sans doute lors de la prochaine...
D'accord.
Le prochain
round. Dans deux semaines.
C'est ça.
Très bien. Très très bien. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que j'ai remarqué qu'aux États-Unis en particulier, la NSA qui avait des problèmes de financement, bon là on parle de quelque chose d'un petit peu plus important, mais depuis quelques années où ils ont des problèmes de financement, ils ont, je ne sais pas si c'est lié, mais ils ont transformé leur communication et ils sont devenus beaucoup plus cool qu'ils ne l'étaient il y a quelques années encore et ils font des coups de communication incroyables. Donc, peut-être quelque chose à faire, oui. Je ne sais pas si vous confirmez, non ?
Pour la NSA, j'ai pas particulièrement.
Qu'est-ce que je raconte de la NSA ? La NASA.
La NASA, je suis totalement d'accord, effectivement.
Oui, oui. Déformation professionnelle tech, tu sais, on parle de la NSA et des espions. De la NASA, ils ont une envolée de communication qui est incroyable depuis 3-4 ans.
Oui, je suis d'accord, mais en fait, ils ont réussi à faire ce que font les marques, c'est-à-dire qu'ils ont créé une véritable connexion émotionnelle avec leur public. On s'identifie à la NASA, ça fait rêver les gosses, ça suscite des vocations. C'est formidable ce qu'ils ont fait. Et j'aimerais bien qu'on arrive à faire la même chose de ce côté de l'Atlantique. C'est un peu le but inavoué de mon projet.
Bah écoute, on te souhaite bonne chance. En attendant, on peut... Allez-y, s'il y a encore des choses à dire.
Yep.
Moi, on me retrouve sur podcastscience.fm aussi. Et puis, je publie vaguement des choses, mais qui, en général, ont été publiées ailleurs sur nicotube.fr. Mon blog où je publierai quand même, c'est un truc qu'on n'a pas dit la dernière fois, on fait des retranscriptions écrites de tous les épisodes de Podcast Science Et donc en particulier, moi, je vieille habitude, du coup, je vais sans doute publier la version écrite de ce que j'ai dit pour Positron sur nicotube.fr, vu que ça n'a pas lieu d'être sur Podcast Science.
Très bien.
Et voilà, mais donc ouais, on a des versions écrites pour ceux que ça intéresse, et pour ça peut aider à comprendre, ou même juste à avoir voir une version écrite de chaque épisode de Science peut être intéressante.
Super.
Ouais, c'est pas
bah, très bien.
Chose.
Et ça peut d'ailleurs intéresser, du coup, si, chers auditeurs, si vous avez des amis malentendants. Ça peut les intéresser aussi.
Tout à fait. Tu sais qu'on a des gens qui apprennent qui nous ont dit qu'ils avaient et que ça les avait aidés à apprendre le français, parce qu'on était une des rares sources d'émissions françaises audio qui avait une version écrite.
C'est vrai, c'est vrai. Oui. Que d'utilité. Magnifique. Très bien. Bah, merci à tous les deux. Moi, je suis NotePatrick sur Twitter et sur Facebook. Vous pouvez aller me suivre là-bas. Je suis également sur frenchspin.fr pour les notes des émissions, les commentaires et d'autres émissions aussi. Et on se retrouve, nous, pour un nouveau Positron dans 15 jours. Ciao à tous.
À bientôt. Thank you.